MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
Hello, hello mon ami, heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face. Au travers de cette émission, Dieu challenge, Dieu parle, Dieu métamorphose et je suis certain que Dieu a une parole pour toi. Je suis avec un invité spécial, Steve Razier.
Bonjour Yanis.
Merci Steve d'être là, je suis dans la joie en fait.
C'est partagé, c'est
je
moi.
Je suis dans la joie, tu sais, avant de te rencontrer... On m'avait déjà parlé de toi depuis des années, de cette carrière, et tu vas en parler, que dans laquelle tu étais. Mais merci d'être là. C'est un honneur, un privilège de pouvoir t'accueillir ici sur ce plateau de l'émission Face à Face. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, Steve Razier, originaire de la Martinique.
Et on salue tous les Martiniquais.
Yes. Né d'un foyer... En fait, je suis métis, donc ma mère canadienne, mon père martiniquais, marié à une sublime épouse.
Et on la salue.
Kétia, oui, qu'on salue. Il y a mes enfants, père de deux enfants, Raphaël et Laina. Et puis, un homme qui aime le Seigneur, qui aime servir Dieu. Et qui a eu un cheminement particulier, teinté de beaux témoignages, mais également de certaines épreuves qui, je crois, m'a rendu que plus mature dans ma relation avec le Seigneur.
Tu t'es converti à quel âge?
21 ans.
21 ans.
Oui.
Alors, comme je le disais, on m'avait parlé de toi parce que à l'époque, j'avais sorti une mise en scène de mon témoignage et on m'a dit, il faut que tu connectes avec ce gars, il est dans le milieu du show business. Ouais. C'est vrai, c'est pas vrai?
C'est vrai, j'ai eu un cheminement particulier, de vocation pastorale, mais mon ministère était vraiment les arts et médias. Donc, c'était pas trop... c'était un ministère non conventionnel.
Et tu étais pasteur dans le show business, c'est ça?
Oui, exactement. Les gens m'appelaient pasteur, même s'ils n'étaient pas croyants, mais j'étais reconnu comme étant un pasteur dans le milieu.
Et tu as le droit de nous dire avec qui tu as travaillé?
Oui, certainement, même si c'est pas des choses que... Mais c'est public, donc j'en parle. Un humoriste dont le nom est Rachid Badouri, qui avait une carrière en Amérique et en Europe. Un boxeur champion du monde, Jean Pascal. Et également un chanteur très connu en France du nom de Gage. Après, il y a eu d'autres artistes, mais c'était les plus connus.
Et ça consistait en quoi, ton travail?
De les accompagner dans leur vision de carrière. Donc, mon but était vraiment de gérer pas seulement les contrats, les agendas et tout, mais vraiment de mettre en place des stratégies pour qu'ils puissent optimiser leur vision de carrière.
Et dans ces couloirs un peu sombres, il faut
parfois
le dire,
oui.
Comment tu brillais pour Dieu?
Mais je crois justement sans effort, juste par ce que nous représentons. La lumière jaillissait toujours plus fort. C'est un milieu qui est très axé sur le « moi ». L'amour, la gloire, l'amour de l'argent, parfois l'immoralité, j'en fais pas bien entendu une règle, mais je veux dire, c'est quand même présent, tout ce qui est un peu l'idolâtrie. Ces artistes deviennent à des dimensions disproportionnées de ce qu'ils sont réellement. Et donc, gérer l'ego, gérer l'orgueil, gérer la facilité à avoir des sommes très rapides, c'est sûr que ça vient avec beaucoup de conséquences qu'on devait gérer. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir des bons, je dis clients, mais c'était des amis, où ce qu'on a pu développer une relation beaucoup plus profonde que celle qui était de la carrière. Mais je crois que dans tout ça, mon plus beau souvenir et ma plus belle fierté, c'est vraiment de savoir que les valeurs de notre foi chrétienne étaient... à laisser de bons témoignages.
Et on arrive à rester intègre avec tout ça?
Oui, parce que pour moi, c'est un ministère. Donc, le fait que ce n'était pas une carrière, tu vois, parfois, malheureusement, on est chrétien le dimanche et du lundi au samedi, on reprend nos habitudes professionnelles. Mais moi, pour moi, c'était un ministère. Donc, toutes ces occasions étaient pour moi juste une opportunité de prêcher l'évangile, de toucher des vies, de côtoyer ces gens-là pour amener un bon témoignage. Donc, je ne l'ai jamais vu comme quelque chose qui était contre mes valeurs puisque j'y étais là avec un mandat, avec un désir vraiment de toucher des vies.
Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur de briller dans certains couloirs médiatiques. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, qui ont des dons de la part de Dieu et qui sont appelés à briller, se distinguer au travers des médias et du show business. Mm-hmm. Quels sont les conseils que tu pourrais donner, puisque tu étais aussi positionné comme ça, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui s'engage dans le show business, acteur, chanteur, rappeur ou autre?
Il y aurait deux grands conseils. Le premier, de ne pas mépriser la préparation. Malheureusement, souvent, on voit des opportunités et on les prend avant d'être préparé. Et je trouve que c'est dommage parce que si on ne respecte pas les saisons dans une vie, on peut même avorter une destinée. Je crois que si tu n'es pas préparé et tu rentres dans un milieu aussi hostile, malheureusement, il peut y avoir des tentations, il peut y avoir des épreuves que tu ne peux malheureusement mal gérer et qui peut t'amener même à t'éloigner de la foi. Donc, je crois que lorsqu'on est appelé dans ce genre de milieu, et tout le monde a un appel, mais peu importe le milieu, on se doit de vraiment prioriser notre préparation dans le Seigneur. Bien entendu, la lecture de la parole, ta vie de prière, de servir dans le ministère, d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, de grandir dans ta foi pour que le jour où la commission vient, mais tu es prêt, tu as un bon témoignage. Sinon, ça peut être dangereux et malheureusement, on a beaucoup de ces artistes ou ces professionnels qui, à cause que leur don et manifester, ils croient qu'ils sont prêts. Mais malheureusement, ils n'ont pas le caractère pour devoir vivre dans des milieux un peu plus costauds. Donc ça serait ma première recommandation, de ne pas mépriser la préparation pour l'appel. Et le deuxième, je crois, c'est de faire la distinction entre l'appel et le ministère. Très souvent, on croit que notre appel est notre ministère. Donc, j'ai un appel comme médecin, et voici, je suis médecin, j'exerce la médecine. Mais la médecine n'est pas ton appel. En fait, la médecine n'est pas ton ministère. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 18 et 19 que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et donc, nos appels sont distincts, mais on a tous le même ministère. Donc, que ce soit dans le foot, comme architecte, comme médecin, peu importe les disciplines, peuvent différer, mais on a le même ministère de toujours être une extension du Seigneur pour amener une réconciliation entre la création et son créateur. Donc ça, je crois que si on ne fait pas la distinction et on croit que nos appels est notre ministère, on va croire que je suis chef d'entreprise, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné un bon statut et le royaume de Dieu avance. Mais le royaume de Dieu avance pas, ton royaume avance. Mais le royaume de Dieu avance lorsque les cœurs sont convertis au Seigneur et lorsque vraiment on voit la volonté de Dieu dans tous ces secteurs. Donc, je crois que ça, c'est l'autre danger, qu'il faut vraiment faire la distinction entre notre appel et le ministère. Si on embrasse notre appel au temps du Seigneur, mais c'est pour réconcilier des cœurs à Christ. Et non, et je ne parle pas de crier dans ton milieu de travail ou porter des t-shirts Jésus-Christ sauve, mais d'avoir au moins de cette sensibilité que Dieu t'a placé là pour vraiment être une extension de sa grâce dans ces milieux.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas arrêter justement cette carrière?
En fait, je crois qu'elle a changé. Il y a eu un événement particulier dans ma vie où ce que j'étais tellement impliqué dans mon ministère local auprès de celui que je considérais mon pasteur à l'époque. L'église a été éclaboussée par les médias. Et une des choses que les médias mentionnaient, c'était que cette église recrutait des artistes. Et là, ça venait me chercher moi personnellement parce que j'étais le seul qui exerçait le ministère dans ce milieu. Et donc, ils ont mis ma photo, les photos de mes clients. Et donc, puisque j'avais un ministère qui était non conventionnel, j'ai jamais trop cru à l'évangélisation par le dimanche matin parce qu'on a notre culture, nos façons de faire. Donc, moi, j'amenais plutôt l'évangile dans leur milieu de travail ou dans leur maison et c'est là que je les formais. Et j'enseignais la parole à plusieurs personnes influentes. Et alors, je me disais que lorsqu'ils vont voir ce titre, ils vont me dire « Ah, c'est pour ça qu'il me prêchait Jésus, il voulait mon argent. » Parce que le titre de la page frontispice, c'était « Une église obsédée par l'argent ». Et donc, c'était très costaud et on connaît le climat du Québec face à la religion et tout. C'était vraiment une attaque à mes convictions chrétiennes. Et donc, j'ai décidé de sortir publiquement et de défendre ma foi concernant que ce soit les finances ou mes convictions et surtout de protéger mon intégrité parce que lorsque j'enseignais la parole, c'était pas motif d'argent ou d'avantage, c'était vraiment pour amener le Seigneur à ces gens. Et donc, cette décision de sortir publiquement m'a amené à... Je savais très bien que les médias en voulaient à mes artistes et donc pour protéger leur cheminement et leur vie, J'ai décidé de rompre mes contrats professionnels pour défendre ma foi publiquement parce qu'il n'y avait rien de plus important pour moi que ma foi. Et donc, je suis sorti, j'ai fait les grands plateaux, les Tout le monde en parle et compagnie. Et puis, cette décision m'a amené à perdre réputation, carrière, finance, relations. Donc, ça a été très dur sur le coup, malgré que je voyais quand même une certaine fierté de m'être tenu pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y avait même un orgueil qui commençait à grandir parce que pour moi, j'avais vraiment défendu, j'ai souffert les souffrances de Christ et tout. Donc, j'avais une fierté. Et puis, bon, après la relation avec les dirigeants de l'Église et l'Église même s'est détériorée. Et donc, j'ai dû prendre un recul qui m'a amené à revoir ma vocation dans ce milieu-là, mais de d'autres formes. Maintenant, c'est une forme plus professionnelle où ce que j'avais une agence de développement stratégique en affaires. Donc, au lieu de gérer des carrières, maintenant, je gérais des budgets pour des sociétés.
En parlant de ça, aujourd'hui, tu travailles au MCI.
Oui.
C'est quoi ton travail?
Mon travail, directeur du développement stratégique des affaires du groupe Média EMCI. Donc, j'ai trois grandes responsabilités. Premièrement, de chercher des nouveaux revenus parce que c'est sûr qu'on a besoin constamment de finances pour pouvoir à ce que la vision continue d'avancer. Deuxièmement, et on salue bien entendu nos partenaires parce qu'on est à 96% financés par nos fidèles partenaires qui croient à la vision et qui croient à cette diffusion de l'Évangile. Donc, si ce n'était pas pour eux, en fait, il n'y aurait pas de EMCI. Mais on se doit aussi d'être sage et de trouver d'autres façons d'augmenter les finances pour justement ne jamais avoir à manquer pour les besoins de la vision. Deuxièmement, de croître les marchés, donc de créer la création de nouveaux marchés de diffusion. Donc, on a pu développer des partenariats avec Free, on regarde avec d'autres grandes compagnies pour la diffusion de la chaîne. Et troisièmement, optimiser les différents pôles du groupe Média, donc les différents départements, de voir comment on peut optimiser le rendement de chaque département.
D'accord. Juste pour encourager les partenaires, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment important qu'ils réalisent et qu'ils comprennent que c'est grâce à leurs dons que nous diffusons. Tu parles de Free. Tu peux aussi dire un petit peu comment ça s'est étoffé, l'impact médiatique sur les chaînes. Je sais qu'au Canada, par exemple, on est diffusé.
Oui, maintenant, ça a été une superbe nouvelle, une bénédiction du Seigneur où on a pu approcher un diffuseur canadien qui est généraliste. Donc, la chaîne vient de base, surtout tout foyer au Canada a accès à cette chaîne qui s'appelle Natif TV. Et sous cette chaîne, on a pu vendre nos émissions qui nous permet maintenant de diffuser dans tout le Canada, de l'Est à l'Ouest, où tous les matins de 9h jusqu'à 11h, nos émissions sont diffusées. Mais c'est une chaîne séculière, donc c'est pas une chaîne chrétienne. C'est un impact fou. Et on a maintenant des gens dans les hôpitaux qui n'ont pas le câble, mais ils ont accès à la chaîne puisque c'est une chaîne généraliste qui voit les émissions chaque matin. On a des témoignages de prisonniers qui n'ont pas le câble en prison, mais qui ont accès à la chaîne et ils nous parlent de conversion et de comment les émissions les a touchés. Donc, ce genre de témoignage est juste extraordinaire.
Et les dom-tom.
La même chose à partir, en fait, je veux pas vendre de date, mais très prochainement, la chaîne sera diffusée également dans les Antilles françaises, dans les Caraïbes, même dans certains pays latins. On est maintenant sur Free qui va rejoindre 20 millions de nouveaux foyers dans la francophonie. On est bien entendu très fort en Afrique et en Europe. Donc, vraiment de voir la diffusion.
Potentiel.
C'est extraordinaire. Et de voir les témoignages, parce que c'est pas juste qu'on diffuse des émissions, mais c'est de voir des vies transformées, des malades guéris, des personnes délivrées, des gens restaurés.
Le royaume de Dieu se propage.
Vraiment, vraiment.
Bon, Steve.
Yes.
On sent que t'es plein de ressources. Tu es également pasteur.
Oui.
Ça, c'est ton ministère.
Oui.
Quelle est ta vision aujourd'hui? Je sais, on en parle, on discute et je la trouve très pertinente, très incisive, très réaliste. Mm-hmm. Quelle est aujourd'hui la vision que tu partages? Ton regard sur l'Église et puis ton regard sur le monde. Parce que j'imagine que tout ce que tu fais à l'intérieur de MCI, pour justement qu'on puisse se connecter à l'extérieur, vient de cette vision aussi.
Ouais, je crois que mon cheminement n'est pour beaucoup, puisque j'avais un ministère qui était essentiellement à l'extérieur des quatre murs de l'Église. Ça m'a amené aussi à voir l'Église pour qu'est-ce qu'elle est. Et malheureusement, je crois que on a déresponsabilisé l'Église avec le temps. Je crois que l'Église, sa responsabilité, j'en parlais justement sur un autre plateau récemment, la responsabilité des dirigeants, des pasteurs d'une Église devrait être de paître le troupeau. J'appelle ça les trois P. Donc, un, paître les troupeaux, acte 20-28. Deux, perfectionner les croyants en vue de l'œuvre du ministère, Éphésiens 4-12. Et trois, présenter tout chrétien en maturité en Christ. Et malheureusement, c'est comme si on a un peu négligé ces trois P pour un autre P qui est la prédication dominicale. Et on croit que si on a un bon service et qu'il y a de l'onction et que la parole est bien, on a nos trois points, on a vraiment notre message topique et vraiment on a vécu, que les besoins individuels de chaque personne sera comblé. Ce qui est totalement erroné. On peut avoir un bon temps, on peut être édifié, mais chacun on a des problèmes selon notre cheminement. Et je crois que seul l'accompagnement d'un croyant va l'amener justement à se développer. Et malheureusement, on a déresponsabilisé le croyant également, qui a une responsabilité de faire des nations des disciples, de réconcilier la création à son créateur, comme je l'ai dit dans 2 Corinthiens 5, 19. Et malheureusement, on l'a responsabilité plutôt à être au poste dans un département le dimanche matin. Ce qui est bien, on se doit de servir, mais ce n'est pas que ça, le ministère. Le ministère se voit vraiment 24-7, donc chaque jour de la semaine, mais on n'a pas su former des ambassadeurs de Christ. On a formé des bons serviteurs du dimanche, mais malheureusement pas ceux qui ont ni le caractère ni la compréhension du champ missionnaire. Et donc, cette déresponsabilisation a malheureusement coûté beaucoup à notre mandat sur la terre d'aller faire des nations des disciples. Et donc, ma vision maintenant de l'Église ou du pastoral, je considère et je trouve que c'est très important de se réunir et d'être édifié, d'être encouragé et de partager des valeurs. Mais je crois qu'on se doit aussi de perfectionner des croyants pour l'œuvre du ministère. C'est en fait les leaders, nous on devrait être en coulisses. Ceux qui devraient faire le ministère et être des grands personnages, ce sont les croyants, ceux qui sont là pour l'œuvre du ministère. Notre responsabilité, c'est pas d'acclamer les bons sermons qu'on livre le dimanche matin, mais c'est plutôt d'être justement formé pour les messages qu'on va amener du lundi au samedi. Donc je crois que cette déresponsabilisation de l'Église a malheureusement amené une Église où ce qu'on a maintenant une sécurité, un confort, et ça malheureusement freine la lancée de la prophétie que Christ a annoncée comme Église.
Mais si tu devras annoncer ce message, le partager à quelqu'un dans l'Église, tu l'adresserais à qui?
Le message
à l'Église avec un grand E, ou quand tu dis déresponsabiliser l'Église?
Oui, c'est le grand E, je crois. Et en fait,
parce que les pasteurs, tu as des pasteurs, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils mettent leur vie sur l'autel du sacrifice, mais après, ce sont que des hommes avec leurs capacités et leurs limites. Mm-hmm. Donc, je pense que, et quand on le voit aussi, c'est que c'est trop facile pour les chrétiens, se dit, c'est le pasteur qui doit faire ça. Il y a aussi beaucoup de chrétiens croyants qui mettent justement l'emphase sur le pasteur et qui attendent que le pasteur réponde à tel ou tel besoin à leur place. Et je crois que la maturité d'un chrétien, c'est justement de se sentir responsable de l'œuvre de Dieu.
Si on les a formés, si on leur a dit qu'ils ont une responsabilité, c'est de faire des nations des disciples et non pas d'être fidèles à tous les dimanches. Là, tu as tout à fait raison. Mais si on les a enseignés justement, ou si on les a pas enseignés cela, on les a plutôt enseignés à être fidèles au message et à la... au service extraordinaire qu'on a tous les semaines, c'est là que malheureusement on peut pas blâmer quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Donc je crois que et je suis très d'accord avec toi, je suis pas en train de cibler les efforts ou le désir des pasteurs de faire le ministère. Je crois juste que l'Église aujourd'hui doit se poser des questions. On doit se dire, est-ce que nous sommes efficaces de la manière avec laquelle on fonctionne? Et on a pu le voir avec la pandémie, plusieurs églises malheureusement ont fermé. Pourquoi? On peut pas fermer une église. On peut fermer un lieu de culte. On peut pas fermer l'église. L'église, c'est sa communauté. Mais c'est parce qu'on a malheureusement une mauvaise compréhension de qu'est-ce que l'Ecclésia du Seigneur. Et je crois que si on se pose des questions sur... je te le disais avant l'émission... Toute grande organisation se doit de se poser des questions pour optimiser le rendement. Toute révolution, que ce soit la révolution agricole, économique, sociale, de l'intelligence et technologie, ont su modeler différentes organisations. Mais malheureusement, c'est comme si l'Église, on a arrêté de se poser des questions. On s'est dit que c'est comme ça qu'on le fait, on va continuer à le perdurer. Mais même l'Église primitive a dû se poser des questions. La création du diaconat est venue par un enjeu sociétal qui était justement un problème démographique. Après ça, le salut maintenant aux non-juifs a amené un changement de l'Église primitive. Donc, on se doit, avec les enjeux sociaux qui nous entourent, de savoir à se poser les bonnes questions pour se dire, est-ce que nous sommes vraiment optimales dans notre façon d'exercer le ministère?
Alors, je t'entends, pasteur. Merci. Ici, on donne l'opportunité à tout à chacun de s'exprimer aussi. Oui. Et je vais demander un petit exercice spontané comme ça. C'est de regarder la caméra. Tu vois, la caméra, c'est une église. Et si tu as, en 3 minutes, quel est le message que tu aimerais faire passer aujourd'hui? D'ailleurs, c'est un message que tu fais passer partout où tu vas. Quel est le message aujourd'hui que tu voudrais faire passer à l'église? C'est pas moi que tu regardes, c'est la caméra.
En fait, un message, humblement, par mon expérience, on doit voir l'église pour qu'est-ce qu'elle est. L'église n'est pas un lieu, l'église n'est pas une adresse civile, l'église n'est pas une journée dans la semaine, mais l'église que le Seigneur a prophétisé dans Matthieu 16, 18, que sur Pierre, il bâtira son ecclésia. En fait, on parlait ici d'une communauté de saints qui va légiférer les lois du royaume sur la terre. Et donc, je crois qu'on se doit de s'assembler avec un désir d'être perfectionné, un désir de côtoyer des frères et sœurs pour grandir dans un amour fraternel, mais également avoir comme désir de partager la vérité avec ceux qui ne l'ont pas encore. On a une responsabilité en tant que croyant. Ce n'est pas au pasteur à amener les gens à la connaissance de Christ seulement, mais les croyants, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu as une lourde responsabilité entre les mains, et c'est de justement faire connaître cette vérité que Jésus-Christ sauve, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et donc, j'encourage à ne pas tomber dans un confort, une sécurité, un évangile axé sur le moi. C'est comme si maintenant c'est le Seigneur qui te sert. Ce n'est plus toi qui sers le Seigneur, mais c'est rendu le Dieu qui doit servir à tous tes besoins. Certes, Dieu va pourvoir à nos besoins si on priorise son royaume de Dieu. Son royaume plutôt, excusez-moi. Alors, je vous encourage à prendre conscience de la responsabilité que nous avons en tant que croyants. Pas juste en tant que pasteur, pas juste en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, docteur ou encore apôtre. Mais si ce n'est que tu portes le nom d'ambassadeur pour Christ, tu as une lourde responsabilité devant le Seigneur. On n'aura pas à rendre compte sur la qualité de nos messages, on n'aura pas à rendre compte sur nos grandes conférences et l'onction qu'il y avait dans la louange, l'adoration, mais on aura à rendre compte sur le ministère que Dieu nous a confié, celui de réconcilier la création à son Créateur et certainement notre communion avec le Seigneur. Donc, je vous encourage à avoir un autre désir lorsque vous vous réunissez. C'est pas juste pour vivre un bon temps dans la présence du Seigneur, mais c'est également avec un désir d'être perfectionné, d'être instruit pour faire la différence du lundi au samedi. Donc, je crois que le monde attend avec un ardent désir de voir la manifestation de cette Église glorieuse. Et si on prend, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a tous des appels. Parfois, il y en a que c'est au ministère, mais d'autres, c'est au niveau des affaires, d'autres, c'est en esthétique, d'autres, dans le sport. Peu importe les domaines, tu as un appel que Dieu t'a confié. Mais à cet appel vient un ministère, justement, de réconcilier ces gens qui vont t'entourer à la connaissance de Christ. Mais pour cela, on se doit d'être perfectionné. Ne pas court-circuiter ton appel par un empressement et malheureusement de mépriser la formation que Dieu nous réserve pour une telle vocation qui est celui de faire des nations des disciples. Les disciples ont été avec le Seigneur pendant 3 ans. Ils ont été à ses pieds, ils l'ont côtoyé quotidiennement avant justement d'être commissionné. Donc, on se doit de prendre la formation au sérieux pour voir des vies transformées. J'ai eu l'expérience de le vivre. J'ai vu comment mes nombreuses années avant même d'être dans mon appel a pu me préparer non seulement à garder ma foi, mais aussi de la partager avec nombreux de ceux qui attendaient simplement qu'on leur tende la main, qu'on leur dise la vérité du salut en Jésus-Christ. Donc, si tu le veux bien, j'aimerais peut-être prier pour toi à la maison, faire cette prière. Peut-être tu es là, ça fait des années que tu es dans l'œuvre. des années. Tu es fidèle, tu sers de tout ton cœur, tu donnes de tout ton cœur, mais tu n'es pas encore satisfait. Il y a quelque chose qui te manque. Tu sens que Dieu veut te réserver encore plus et veut t'utiliser. Tu n'as pas besoin d'un titre, tu n'as pas besoin d'être ordonné pour que Dieu t'utilise. Tu as juste besoin d'être disposé. Alors si tu te sens concerné par ces quelques mots, je te prie de te disposer pour ce temps où ce qu'on va prier et invoquer le Seigneur pour une touche spéciale. Père Céleste, je te remercie pour cette opportunité, ces mots, Seigneur, que tu nous as partagés aujourd'hui. Père, tu les vois, Seigneur, tous tes enfants qui soupirent, Seigneur, qui sont reconnaissants de ce que tu as fait dans leur vie, mais c'est comme s'ils ont une conviction qu'il manque quelque chose. Père, nous prions que nous voulons que tu nous utilises, mais c'est comme si on ne voit pas comment tu peux le faire ou de quelle manière on soupire à plus. Père, je te prie de convaincre tes enfants aujourd'hui. Père, qui ne se satisfait pas d'être fidèle à des réunions dominicales, mais Père, qu'il soupire à être pleinement dans l'œuvre du ministère, celui de réconcilier la création à toi, Seigneur. Saint-Esprit, accompagne tous ceux et celles qui entendent, Seigneur, ce message aujourd'hui, qui a une onction particulière, Seigneur, qui les visite. Père, que tu puisses les envelopper, que tu puisses leur donner une hardiesse. Père, il y en a qui veulent, mais qui ne savent pas le comment. Père, que tu puisses appointer des enseignements propices, Seigneur, à la préparation en vue de la commission. Saint-Esprit, accompagne-les, touche ces gens. Seigneur, qu'ils aient ce feu qui bouillit en eux, ce feu qui leur demande, Seigneur, de ne pas mépriser l'enseignement, mais au contraire de l'apprendre et de la mettre en pratique. Père Céleste, merci. Car je vois déjà ces gens qui sont enflammés pour l'œuvre du ministère. Seigneur, ils ne pourront pas s'arrêter. Seigneur, non seulement ils auront le zèle, mais ils auront aussi le perfectionnement. Seigneur, les enseignements propices pour faire la différence dans leur milieu. Père, tu nous vois. Seigneur, on n'a pas de diplôme, on n'a pas toute la connaissance, on connaît peut-être pas toute la Bible, mais Seigneur, ton esprit nous suffit. Cet esprit, fais-le en nous. Seigneur, donne-nous cette hardiesse, donne-nous ce désir, cet amour, Seigneur, pour transmettre cette vérité que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Père, et que nul ne vienne à toi que si ce n'est par Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi que nous t'avons prié. Amen.
Amen, amen. Merci pour ton cœur, Steve.
Merci à toi, Yannis.
On aurait pu t'écouter des heures. J'aime bien être challengé, boosté. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être connectés à la réalité parce que Dieu a un message pour la création tout entière. Et c'est notre devoir, notre rôle. Et si ce n'était pas le cas, on serait avec le Père dans la patrie céleste. Mais si Dieu nous laisse ici, c'est pas pour construire et nous asseoir dans des cathédrales en cristal, mais c'est pour sauver des âmes.
Amen.
Pour sauver des âmes. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon ami. Garde ce que tu as reçu précieusement et surtout, surtout, comme l'a dit le pasteur Steve, mets-le en pratique. À très bientôt pour une nouvelle émission Face à Face. Merci Steve.
Merci Yannis.
Ciao.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.